best lie down.
Et venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Et venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Et venez les filles, bijou chouchou, Lady Diana, coucou zizi, mimi papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un bain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dis Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gaffe les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et t'es des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dis tes potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'là qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dis tes potes, où est les papas, où est les Diana, où est les Charlotte, où est les Didi, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas, où sont les filles, où est les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Hello, hello, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Canu, on est bien dimanche soir et il est bien 22h.
Pile!
Pile, aucune brouette, rien du tout, on est à l'heure. On espère que vous allez bien. Donc c'est toujours la causerie avec. Il y a Fab.
Salut à tous et à toutes.
Il y a Emma.
Bonsoir.
Il y a Clara.
Bonsoir.
Et il y a Jean-Yves. Bonsoir.
Bah oui, mais tu ne nous as pas laissé le temps.
Oui. C'est vrai.
Alors juste, on va préciser que cette émission a lieu car nous avons eu nos clés, hein, ce qui n'était pas le cas du petit bazar ce matin, qui n'a pas eu lieu car ils étaient fermés dehors. Ouh, c'est nul. Voilà.
Alors, ce n'est pas de la dénonciation, vous non. Savez, on a de l'humour en fait à la causerie parfois. Hein. Et donc voilà. Voilà. Et ben comme d'hab, on va vous filer quand même les 2-3 infos pour continuer à nous contacter, à laisser des commentaires, tout ça, tout ça.
Oui, si vous voulez nous contacter par mail, vous pouvez le faire à radiocanu@gmail.com ou alors sur les blogs.
Ah là, oui, je me disais qu'elle allait me passer le coup du blog.
Mais oui, je te regardais,
alors,
tu t'as vu le regard.
C'est blogs avec un S, donc blogs.radiocanu.org/lacauserie. Et là, vous nous trouvez. Et on a aussi un espace Facebook où vous tapez la causerie et on n'est pas un restaurant à Grenoble, donc normalement, vous devriez nous trouver.
Voilà. C'est ça.
Et donc, eh ben, on va démarrer l'émission. Tranquillement. Et Jean-Yves, c'est toi qui démarres en présentant un livre qu'on attend depuis quelques temps maintenant.
Oui, donc, je sais.
Donc voilà.
Non,
voilà.
C'est le livre que vous attendez, j'ai bien compris, ce n'est pas moi. Ne me regarde pas comme ça. Ouais. Et ben oui, un livre dont je voulais vous parler depuis un moment, je voulais être sûr de le terminer, et qu'en même temps, je ne pourrais pas vous restituer la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, c'est vraiment vous faire part plus de... Ben, un peu de... Comment dire, de l'engouement que j'ai pour ce livre. Alors, ce livre, qu'est-ce que c'est? C'est Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité. C'est un livre de John Stoltenberg aux éditions Sileps, édition, pardon, et ses collections Nouvelles questions féministes.
C'est M éditeur, M édition.
Alors, M éditeur, c'est pour le Québec, et Sileps édition, c'est pour la France.
Ok.
Voilà, monsieur.
Autant pour moi.
Alors, eh ben John, je vais faire comme d'hab, souvent quand je vous parle d'un bouquin, j'aime bien aussi vous parler de qui l'a écrit. Donc là, c'est John Stoltenberg. Je vais le reprendre. John Stoltenberg. Donc, il est né en 1945 à Minneapolis, aux States. Il est journaliste, il est metteur en scène, c'est un féministe radical. Il était également rédacteur en chef d'une publication bimensuelle aux États-Unis. Et il était aussi le compagnon, puis le mari de Andreas Dworkin. Pardon. Qui elle est décédée en 2005. Et Andrea Dworkin, c'est elle qui était à l'initiative. Au départ aux États-Unis, des marches non mixtes. Voilà. Alors, ça fera grincer certaines franges et ça fera plaisir à d'autres franges.
C'est elle qui avait lancé les marches non mixtes, c'est-à-dire pas d'hommes, pas de religion, pas de syndicat, pas de parti, si ma mémoire est bonne.
C'est ça. Qui, je crois, à la fin dénonçait elle-même en fait le tournant qu'avait pris en fait les marches non mixtes. Voilà, c'est pour ça que je disais que ça allait en faire grincer certains, certaines. Alors, donc aussi, on continue sur John Stoltenberg, en fait. En fait, il a fondé le Men Can't Stop Rape, qui veut dire les hommes peuvent mettre fin au viol, en 1987, et ensuite, 10 ans plus tard, il a été à l'initiative, alors, je suis absolument nul pour vous le donner le nom du collectif, mais en tout cas, l'objectif, c'était vraiment de prévenir les agressions sexuelles en s'adressant directement aux jeunes hommes, qui selon John Stoltenberg en fait sont les plus influencés par cette culture en fait de violence et à même de devenir des violeurs.
Oui, le collectif ça se traduisait par ta force mais là dans autre chose.
En fait. Oui, il y avait de ça.
Dans la violence.
Oui, c'était ça. Bah, oui, c'est ça. Ma force n'est pas faite pour blesser. Voilà. Et donc voilà. Et le livre donc dont je veux vous parler un peu ce soir, c'est donc Refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité. Et en fait, c'est un bouquin qui a été écrit en 90 et qui a été uniquement traduit en français l'année dernière, il y a 2 ans, en 2013. Donc quand même, là aussi, on a le droit de se dire merde quoi. Faut attendre si longtemps pour avoir des bouquins de cette qualité. Enfin bon. Avant de continuer, je veux quand même dire si le titre ou ça vous a fait hérisser le poil, mesdames et messieurs, bah je pense que vaut mieux changer d'antenne parce que les 10 minutes qui vont suivre vont pas forcément vous plaire plus. Ou alors vous allez rester et essayer d'abattre justement tout ce qui tient à cette identité viriliste. Donc voilà. Et pas parce que justement, moi, c'est le titre en fait qui m'a fait acheter ce bouquin parce que refuser d'être un homme. Oui, je vais me calmer. Parce que effectivement, refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité aujourd'hui, eh ben ouais, moi ça m'a vraiment tiqué parce que effectivement, je vais vous citer peut-être des passages après parce que comme il peut l'évoquer lui dans le bouquin, en fait, il y a des fois où dans ta vie quand t'es un homme, hein, ce qu'on définit en tout cas comme ça, et ben des fois tu peux te sentir un peu mal à l'aise face à certaines attitudes, à certains propos qui émanent d'hommes à l'encontre d'autres femmes ou à l'encontre d'autres hommes qui ne correspondent bien évidemment pas aux standards ou aux clichés ou à cette norme en tout cas de ce que devrait être l'homme dans une société patriarcale. Donc voilà, et c'est justement, si je vais quand même vous citer ce truc là parce que en fait, alors lui, c'est pas par rapport à son propre livre hein, qui réagit comme ça, mais c'était par rapport à un texte que Andreas Dworkin avait écrit en 1974, où elle disait « Nous sommes clairement une espèce multisexuée dont la sexualité s'étale sur un vaste continuum où les éléments appelés hommes et femmes sont imprécis. » Et en fait, il dit « Nous sommes une espèce multisexuée. » J'ai lu ces mots pour la première fois il y a un peu plus de 10 ans. Donc on resitue, c'était écrit en 90, et il dit « Et cette reconnaissance libératrice m'a sauvé la vie. J'ai su durant toute ma jeunesse qu'il y avait quelque chose de vraiment problématique dans mon rapport au principe masculin. Dans mon fort intérieur, je n'ai jamais vraiment cru être tout à fait masculin. Je n'ai jamais cru que je devenais suffisamment un homme. Je croyais qu'il existait quelque part, chez d'autres hommes, quelque chose qui était la vraie masculinité américaine, le produit authentique. Mais moi, je ne l'avais pas. Ou du moins, pas suffisamment pour me convaincre moi-même, même si j'arrivais à être relativement convaincant pour mon entourage. » Donc voilà, j'avais l'impression d'être un imposteur, un faux. Il était très pénible de ne pas me sentir assez masculin et j'avais alors aucune idée à quel point je n'étais pas le seul à vivre ça. Et bien, je trouve qu'au final, ce que lui a ressenti, on va dire, par rapport aux écrits de Dworkin, bah, au final, moi, je pense que je peux emprunter quasiment la totalité de ses mots pour son livre à lui, quoi. Parce que, effectivement, ça vous en met plein la gueule, ça s'adresse en priorité aux mecs, parce que, à un moment donné, je fais partie de ceux qui pensent que les hommes aussi peuvent avoir leur part dans le combat féministe, anti-sexiste, anti-patriarcat, et que je pense que c'est pas aussi simple que éliminer un pouvoir, c'est-à-dire que, ou alors il faut se dire qu'on va éliminer 50% de la planète. J'ai pas vraiment envie de mourir, hein. Je vous le dis quand même, parce que j'ai le malheur d'être né avec un pénis. Parce que voilà, bah justement, ça aussi c'est une définition, c'est comme ça qu'il appelle lui les individus. Il y a ceux qui sont nés avec un pénis et ceux qui ne sont pas nés avec un pénis. Et je trouve que déjà ça c'est très intéressant pour déconstruire tout ce qui est autour justement de cette construction, de cette soi-disant identité masculine. Donc voilà, enfin moi je vais encore essayer de vous citer deux, trois trucs quand même. Il y a une de ces phrases qui dit « L'idée de sexe masculin est comme l'idée de race aryenne. C'est-à-dire qu'il existe uniquement une idée, ainsi que les conséquences des tentatives de la faire apparaître comme réelle, mais elle n'existe pas. » Et il dit « On trouve dans la nature des pénis, du sperme et des prostates. » Alors ça, c'est moi qui le rajoute, dont on a parlé ici, hein, déjà la prostate. Mais l'idée que ces traits anatomiques délimitent ensemble un sexe, une classe précise, séparée et distincte, métaphysiquement sécable d'un quelconque autre sexe, l'autre sexe, n'est que cela, une idée. Les pénis existent, le sexe masculin non. Et c'est très très intéressant. Enfin moi je pousse vraiment tout le monde à ouvrir ce livre. Alors messieurs, vous allez être bousculés dans certains trucs parce que il le dit lui-même, hein, quand on est mec, forcément, qu'on le veuille ou non, il y a des choses, tant qu'on ne les a pas réfléchies, on reproduit. On reproduit donc un schéma patriarcal, parce qu'on est quand même majoritairement les mecs. On a beau dire, ouais, moi j'ai grandi dans un super environnement, super protégé. Je crois qu'on garde toujours des traces d'une éducation où nous sommes les tenants du pouvoir, parce que ça ne va pas autrement, hein, et que ça, pareil, dans toutes les communautés aussi, hein, on peut être homme et homosexuel, et ça ne changera rien à votre rapport de dominant sur une autre partie de la société. Donc voilà, enfin c'est un livre qui nous pousse, ouais, effectivement nous qui sommes nés avec un pénis, à nous interroger sur ce que c'est qu'être un homme, ou en tout cas ce que c'est la sexualité masculine aussi, etc. Sur les conséquences que cette masculinité, cette virilité extrême entraîne, parce qu'elle entraîne des choses, elle entraîne des dominations, elle entraîne des souffrances, elle entraîne beaucoup plus de choses, et qui sont donc aussi, enfin après. Lui, il va avoir plusieurs angles de lecture autour de cette construction de l'identité masculine, soi-disant identité masculine. Alors ça va passer du rapport père-fils, qui est vraiment très 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 intéressant. Encore une fois, moi je vous dis pas que c'est une nouvelle Bible, hein. Déjà la première, j'y prenais pas vraiment appétit, mais encore une fois, je sais pas comment dire, c'est pas 100% bon, 100% pas bon.
Non, c'est une série d'interrogations.
C'est ça.
Qui du coup te mettent en face de tes propres interrogations, si tu as commencé à en avoir, ou alors vont les déclencher chez toi, ce qui est plutôt positif, quoi.
Ah ben oui, mais moi, il y a plusieurs choses sur lesquelles, à la rigueur, je suis pas forcément complet, enfin, je suis pas forcément d'accord sur la totalité de la pensée, mais en tout cas, il amène effectivement à des interrogations. Je veux dire, alors là, je vais vous citer aussi un truc, parce qu'il parle aussi du porno, parce qu'on parlait des différents angles de lecture qu'il va avoir de cette domination-là. Il va aussi attaquer sur le porno. Alors, lui, il va faire partie, on va dire, des féministes radicales. Alors, ça me terrifie dans ce monde, mais où c'est anti-porno. Et on a aussi les pro-porno, les pro-sexe, ouais, les anti-sexe.
Ça me terrifie.
Parce qu'on est dans une simplification des choses.
Ah oui,
parce qu'on est dans une simplification.
Un tout ou rien.
Oui, c'est ça, on est dans un tout ou rien.
Mais en général, c'est refuser de voir le problème, l'éliminer, et sans voir en fait la complexité que pose le souci, dont le porno est un des cas, quoi.
Ouais.
C'est vachement clair comme ça.
et justement, après, encore une fois, moi je pense qu'il y a aussi des choses qu'il faut resituer aussi. Il a été écrit en 90. J'ose espérer que certaines choses ont changé, même si bon, l'industrie porno, ça reste quand même une industrie, et l'industrie, on sait ce que ça fait quand même, hein, c'est l'histoire de ramasser du pognon. On n'est pas là pour soigner les gens, enfin, hein, pour prendre soin des gens. Ça se passe dans le salariat, on va dire, plus tradit. Pourquoi ça se passerait pas dans le porno, hein? À un moment donné, il faut arrêter de se voiler la face quand même. Donc voilà, et en fait, je voulais quand même vous citer un truc, un passage encore une fois de ce livre, où en fait, il cite des écrits de Andreas Working, qui elle-même a été, on va dire, appelée par le gouvernement fédéral à se poser sur un texte de loi autour de la pornographie. Et donc elles sont amenées à interviewer, à avoir des entretiens avec des acteurs, des actrices porno, principalement des actrices. Et je voulais quand même vous passer un morceau de ce témoignage d'une actrice qui est très connue, d'après ce que j'ai compris. Moi personnellement je ne l'ai pas vue, mais non mais vraiment je ne l'ai pas vue. Elle s'appelait Linda Marchiano. Son nom de scène, ou je sais pas comment on peut dire, c'était Linda Lovelace, et qui a joué dans un film qui s'appelait Gorge Profonde. Ouais, je crois que dans
qui était le premier film pornographique qui a été projeté à grande échelle dans le monde, hein, puisque c'était voilà. Et d'ailleurs, il va y avoir un biopic, comme on dit, sur elle, qui est prévu à Hollywood et où ça fait déjà beaucoup jaser parce qu'ils veulent enlever toute la partie que tu vas lire.
Ok. Et ben allons-y. Donc voici une partie de son témoignage. Elle était au moment du tournage mariée à un homme appelé Chuck Trenor, qu'elle appelle ici Monsieur Trenor. Durant le tournage de Gorge Profonde, en fait, dès le premier soir, j'ai subi dans ma chambre une raclée brutale pour avoir souri sur le plateau. C'était une chambre d'hôtel et toute l'équipe était dans une pièce attenante. Il devait y avoir une vingtaine de personnes qui faisaient la fête, écoutaient de la musique, riaient et s'amusaient. Monsieur Trenor s'est mis à me lancer contre les murs de la chambre. Je me suis dit que sur 20 personnes, il y aurait peut-être un être humain qui allait faire quelque chose pour m'aider. Et j'ai crié à l'aide. On me battait, on me bourrait de coups de pied, on me lançait contre les murs. La pièce d'à côté est devenue soudain très silencieuse. Mais personne, pas une seule personne n'est venue m'aider. La principale chose dont les gens se sont plaints le jour suivant a été que j'avais des bleus sur le corps. Beaucoup de gens m'ont fait la remarque qu'on me voit toujours sourire dans Gorge Profonde et que j'ai vraiment l'air d'y prendre plaisir. Mais personne ne m'a jamais demandé d'où venaient ces bleus. Et ça continue comme ça. Hein. Enfin, après, ça part son mari qui l'oblige à coucher avec des animaux. Enfin, c'est sordide. C'est vraiment sordide. Mais c'est la réalité. Encore une fois, on peut effectivement se dire que ça n'existe pas. Mais je pense qu'effectivement, on avancera plus en se disant que ça existe. Et elle dit quelque chose que je trouve assez incroyable. Elle dit, Linda Marchiano a témoigné lors des audiences à Minneapolis que chaque fois que des gens regardent ce film, ils me regardent être violé. Et je pense qu'effectivement, c'est une des choses, pas seulement, qui dans ce livre forcément va vous mettre une grosse claque dans la gueule. Parce que le porno, je ne sais pas si je suis une exception dans le monde masculin de ceux qui sont nés avec un pénis, mais c'est quelque chose que le porno est assez habituel, hein, en tout cas... C'est beaucoup plus normal, comme on aime à dire, que les hommes regardent ça. Et effectivement, il y a des choses où il faut absolument s'interroger. De quoi sommes-nous le vecteur? Qu'est-ce qu'on porte aussi quand on partage certaines choses, quand on diffuse certaines choses? Et que, enfin voilà, moi je vous pousse vraiment à lire ce bouquin. Il met une grosse claque et en même temps il vous amène vraiment à vous interroger et à essayer de se détacher justement de cette identité masculine à laquelle on doit soi-disant s'attacher à fond, quoi, alors qu'au final ce n'est que de la merde. Donc voilà, je vous rappelle les coordonnées. Donc c'est refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité de John Stoltenberg. Et ben voilà, si vous avez des questions, des réactions.
Ouais, non, moi je suis en train de commencer tout juste de le lire, en fait, parce que bon, on en avait parlé, ça m'avait donné forcément envie. Et en fait, déjà, moi je trouve, enfin, je suis allée le prendre à la bibliothèque, donc enfin voilà, déjà je peux vous conseiller, ils commencent à arriver dans les bibliothèques municipales. Et en fait, déjà, j'ai apprécié de voir un livre comme ça, avec un titre comme ça qui parle de lui-même sur un rayon qui, forcément, il était positionné dans le rayon féministe, qui sont des livres essentiellement écrits par des femmes et qui sont majoritairement destinés à des femmes. Et je trouve qu'avoir un livre comme ça avec un titre, voilà, refuser d'être un homme, qui parle de lui-même, déjà c'est une grande avancée. Après, donc voilà, moi je débute la lecture, mais comme tu disais, je pense que on n'est pas obligé d'avoir une lecture à 100%, se dire que j'appellerais pas ça une bible, mais un fascicule de comportement à suivre et tout ça. Mais je pense que ça devrait être un peu le manuel avec où les hommes et les femmes devraient naître maintenant avec ça. On devrait le distribuer. Voilà, s'il y a des espèces de naissances qui vont se faire prochainement, achetez-le, voilà, comme cadeau de naissance au lieu d'offrir des espèces de cigognes, je sais pas trop quoi. Et non, mais voilà, parce que je pense que ça peut être un... Il y a des personnes, malheureusement, qui commencent à s'interroger. Et là, effectivement, des fois, ça peut répondre à leurs questions et aussi projeter d'autres questions. Et malheureusement, moi, je suis... C'est pas mon côté pessimiste qui ressort, mais je suis malheureusement convaincue que majoritairement, beaucoup de personnes, dont voilà, des hommes, ne se posent pas la question de leurs propres actions. Et effectivement, quand on commence à parler de la question du porno qui est abordée dans le livre, je pense que il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais bon, ça existe, qu'est-ce que tu veux faire ?» et qui n'arrivent pas à se poser la question de bah, si aujourd'hui tout le monde refuse de regarder certaines choses, et moi voilà, j'en ai déjà parlé dans la causerie, je ne suis pas du tout anti-porno, mais effectivement quand on voit qu'il y a des vidéos qui existent et qui sont du viol et qui le titrent comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vous y loucher, enfin qu'on ne peut pas vous y tromper, pardon, qui sont clairement dans cette catégorie du viol, où la personne, enfin les nanas, clairement, parce qu'en général c'est ça, souffrent. On peut pas, enfin vous pouvez pas venir mentir en disant qu'après on vous a pas prévenu. Et je pense qu'effectivement, se dire qu'au bout d'un moment on est porteur aussi en cliquant sur cette vidéo, des fois en la partageant, bah si, on fait fonctionner cette industrie, voilà quoi.
Ouais, et moi j'avais une question. Alors moi j'ai pas encore lu le livre, par contre ça viendra. J'avais juste une question par rapport au livre. Est-ce que tu penses que c'est un livre intéressant pour des parents, c'est-à-dire des gens qui auraient un jeune garçon, tu vois, et qui dirait bah tiens, est-ce que je pourrais moi dans mon éducation faire en sorte d'éviter certains écueils qu'ils sentent d'un seul coup supérieurs à tout le monde parce que c'est un mec qui a une bite, quoi.
Ah, ben, je pense que de toute façon, avant que ça serve aux gamins, ça servira déjà au père, en fait.
Oui, ça, on est d'accord.
non, mais foncièrement, je
revenais pas sur le fait qu'en tant qu'adulte, ça peut te permettre de faire, de modifier tes comportements et de voir qu'effectivement. Mais moi, je me disais, est-ce que ça peut se transmettre, en fait, finalement? Je sais pas ce que tu penses.
Ben, j'ai envie de te dire oui. Après, il y a des concepts qui, enfin, pas des concepts, mais il y a des idées qui sont exposées, etc., qui sont pas forcément les plus simples des fois à saisir, mais attention, hein, enfin moi j'ai pas non plus un niveau bac plus 25, hein, je veux dire, c'est juste...
Non mais il a l'air d'être écrit de façon très simple.
Mais des fois, par contre, effectivement, il y a des envolées dans des trucs où tu dis, wow, attends, c'était quoi le début de la phrase et... ouais. Mais voilà, mais après, je sais pas comment dire, forcément ça va heurter, mais il faut que ça heurte, bordel. On peut pas échanger les choses en se caressant le poil, quoi, dans le sens du poil, pardon, je sais pas si ça le fait comme ça, mais on y va comme ça. Mais et forcément, les gars, il va falloir que, ouais, on prenne un petit coup de coupe-coupe, qu'on se sente plus avec nos grosses bites là qui dépassent. C'est juste se dire, à un moment donné, on est des individus. Ce qui vous avez entre les jambes ne doit pas définir votre position, votre rôle et votre domination. C'est ça qu'il faut absolument interroger. Et après, je reviens sur le porno, parce que c'est très bien, il faut aussi une analyse du porno gay. Ouais. Et bon, ben bon, j'en fais un peu partie, pas du porno, hein. Non, ou à mes heures perdues, mais non. Et c'est hyper intéressant parce que justement, il y a aussi cette
la reproduction,
bien évidemment. Et puis même dans les milieux, enfin dans la communauté LGBT. Encore une fois, pas de globalité, mais dans certains milieux, il y a toujours effectivement celui qui aura le rôle de mâle viril,
l'actif,
et puis il y aura le passif, qu'on va souvent appeler la passive.
Ouais, tout à fait.
Donc, et c'est vraiment, il y a une analyse là-dedans assez incroyable sur le fait que quand il y en a un qui se fait sodomiser dans un porno, ensuite il va forcément re-sodomiser pour ne pas justement devenir une femme. C'est incroyable, mais vraiment, enfin moi je, enfin achetez-le, quoi, bordel, faites tourner ces trucs où c'est intelligent et où ça vous met des claques, quoi, hein. Donc je rappelle encore une fois pour que ça rentre bien dans les têtes, c'est John Stoltenberg, c'est refuser d'être un homme pour en finir avec la virilité. Voilà, je sais pas si vous avez encore des trucs à dire, mais je pourrais en parler des heures, c'est peut-être ça mon problème.
Disons qu'en fait on a qu'une heure, alors...
Ah ouais, j'ai déjà bouffé 20 minutes. Allez, on balance le son.
Et pareil, toi seul, sans tes origines, renvoie-les à tes ancêtres, juste pour un moment, le temps de te retrouver, seul, sans une couleur de peau et sans une religion. Renvoie ça à tes ancêtres, juste le temps de te trouver, seul. Retrouve-toi seul, sans ton pays. Prends un moment pour être ni de la politique, ni de la géographie. Tu n'es pas un contexte et tu n'es pas une situation. Tu n'as qu'un contexte et tu crées les situations. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes amis, sans l'affection, sans le groupe. Tu n'es pas le groupe parce que le groupe n'est pas un. Et les guerres intestines ne touchent pas tes intestins. Alors retrouve-toi seul. Retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Ils ne le sont qu'à cause d'une histoire de groupe, ou de situation, ou de pays, ou d'origine. Alors retrouve-toi seul, sans tes ennemis. Retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Le sexe est un outil, c'est un détail. Le genre est une posture, c'est un rôle. Tu n'es pas un détail et tu ne prétends pas jouer un rôle. Alors retrouve-toi seul, sans ton sexe, sans ton genre. Retrouve-toi seul, sans ton prénom, sans ton nom. Mets-les de côté pour pouvoir t'observer sans que ce soit eux qui te servent de reflet. Sans leur connotation, sans leur sonorité. Renvoie ça au langage, juste le temps de te retrouver seul. Retrouve-toi seul, sans ton visage. Tu le vois par les yeux des autres, mais sans eux tu ne l'as pas, tu ne l'as plus. Ne les laisse pas te modeler, te remodeler. Tous ces déguisements qui rendent l'intérieur inaccessible et si étrange à soi-même jusqu'à en avoir peur, de regarder dans son intérieur et de ne voir que du vide et de tomber, parce qu'on se rendrait compte qu'il n'y a aucun artifice assez solide à l'intérieur où l'on pourrait se rattraper. Alors on a peur d'être seul, comme si on avait peur de soi-même.
Et vous êtes toujours à la causerie. On vient de s'écouter le titre Seul de Rosset. Vous l'avez déjà entendu dans la causerie, mais je trouvais qu'il collait vachement avec le livre, en fait, justement, sur ce besoin de s'interroger sur ce qui nous sommes, en fait, individuellement, indépendamment de ce qui nous pend entre les jambes. Voilà. Et ben, vas-y.
Oui, je voulais juste en profiter. Alors, ça n'a pas un grand rapport direct avec ce que la lettre d'Emma après, hein, parce que j'introduis déjà ce qui va se passer. Non, c'est je voulais rappeler que tu parlais des bibliothèques pour les livres, mais on l'avait déjà dit à la causerie, on est assez facilement prêteur. Alors, vous pouvez nous envoyer un petit mail pour nous dire, voilà. Et puis, on se rencontre, on boit un coup et puis on voit. Voilà. C'est juste pour dire ça, pour rappeler que
c'est
quelque chose qu'on n'avait pas redit depuis longtemps.
C'est vrai.
Dit, tiens, voilà,
c'est effectivement.
Voilà.
Merci.
Et donc, Emma,
oui,
tu as écrit une lettre.
Oui, alors j'ai écrit une lettre. Ça arrive et alors, je ne peux pas trop vous dévoiler, mais vous allez voir, malheureusement, je pense que ça va parler à la majorité d'entre vous sur des situations qu'on vit régulièrement, et voilà, j'ai écrit ça parce que, voilà, la causerie, c'est aussi souvent nos humeurs, et en ce moment, mon humeur est un grand ras-le-bol. Donc voilà. Donc ce soir, je prends la plume, enfin plutôt mon bic façon causerie, et je m'adresse à vous. Enfin, peut-être pas à vous directement, à eux plutôt. Vous les côtoyez sûrement, que vous le vouliez ou non. Ils font parfois partie de votre famille, et vous avez le droit, une fois par mois, à leur remarque entre l'entrée et le plat chaud. Parfois, ils sont de vieilles connaissances aussi, que vous ne rencontrez qu'à l'occasion, mais qui ont toujours le mot, la phrase de trop. Souvent aussi, ils sont vos collègues et vous vous délectez de leurs discours à la pause café ou à la pause déjeuner. Ça commence à vous parler, hein. Et vous avez parfois, peut-être, cette sale impression comme moi qu'ils sont partout. Partout. Vous savez, ils ont le don de commencer la majorité de leurs phrases par un. Je suis pas raciste, hein, mais non. Comme si le nom « mais » était capable d'excuser à lui tout seul le début de la phrase. Et là, après le « mais », arrivent toutes sortes d'anecdotes, souvent vécues par un ami d'un voisin, ou comme « j'ai entendu sur RTL ». Si vous êtes en train de vous dire « mais de quoi nous parle-t-elle », je viens vous donner quelques exemples qui malheureusement parleront à la majorité d'entre vous. Vous l'avez vécu, si, cet oncle qui se tourne vers vous lors d'une réunion de famille et vous dit « je suis pas raciste, hein, mais il faut avouer que si des gens comme toi sont au chômage aujourd'hui, c'est parce qu'on donne du travail aux étrangers ». En général, moi je m'empresse d'avaler mon toast en espérant qu'il reste coincé au fond de ma gorge afin qu'on puisse le transporter aux urgences. Le souci, c'est que ça marche pas à tous les coups. As-tu toi aussi essayé de comprendre le raisonnement de tonton ? Moi j'ai essayé de discuter, de dire que oui, effectivement, dans ma promo d'université, il y avait 8 étudiants internationaux qui sont restés en France après la fin de leurs études et qui font donc partie du marché du travail. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, le fameux tonton, lorsqu'il employait le mot « étranger », il ne l'employait pas pour tout le monde. Non, vous voyez, mon ami espagnol était à ses yeux une plus-value, un apport culturel pour la France. Et en fait, chez Tonton, les étrangers, posons les mots, n'ayons pas peur de le dire, c'est les Arabes et les Roms. Voilà, ce qu'il n'osait même pas dire tout de suite, mais qu'il avouerait bien après quelques verres de pastis. Parce que c'est bien connu que le Rhum a piqué ma pauvre petite place de chargée de com, parce que c'est bien connu que non, le Rhum a fui son pays pour venir prendre ta place sur le marché du travail. Mais non, Tonton, bien sûr, ils ne vivent pas dans la précarité. Tu as raison, ce n'est qu'une facette, ils la cachent quand même bien leur stratégie. En général, en plus dans la tête de tonton, il paye bien trop d'impôts pour que la France, la digne France, porte secours à tous ces cas sociaux, comme il le dit si bien. Tonton et les autres tontons, je vous invite à aller rencontrer ces gens. Oui, à sortir de chez vous, à aller vous documenter aussi. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à la causerie, on avait reçu une personne qui avait suivi le programme Andatou, qui est effectivement pour l'insertion des Roms. Et voilà, j'invite Tonton et les autres tontons à aller se documenter auprès du programme et aller rencontrer ces personnes. Et puis aussi, j'aimerais vous parler de cette collègue. Un jour, alors qu'on parlait du harcèlement de rue et que je lui disais que je n'avais pas pu marcher 5 minutes seule rue de Marseille, elle me tapa sur l'épaule en me disant « Ça ne m'étonne pas. » Ah oui, quelle ne fut pas mon erreur de lui préciser la rue, qui pour moi était une rue comme les autres. C'était juste un détail indiquant ma destination. Sauf que pour elle, ce détail venait l'aider à justifier toute son argumentation. Car voyez-vous, la fameuse rue de Marseille, pour les non-lyonnais, se situe dans un des quartiers populaires de Lyon. Quartier qu'on qualifie ici de quartier d'immigrés. Ailleurs dans le monde, on pourrait le qualifier de multi-ethnique, mais passons, c'est un autre détail. Cette personne reprenait dans son discours. « Bon, tu me connais, hein, je suis pas raciste, mais il faut avouer que c'est toujours les mêmes qui harcèlent. » Elle rajouta « Tu vois, ça, je peux même pas en parler à Yves Kines, elle se sentirait visée. » J'hésitais à rigoler, mais elle a souhaité persister et signer. « Je suis pas fan de Le Pen, mais le sentiment d'insécurité qui règne dans ce pays, c'est le seul à pouvoir faire quelque chose. » Vous les sentez, vous aussi, les raccourcis, les amalgames et le bon racisme de ces trois phrases ? Déjà, elle avait choisi à qui en parler. Notre autre collègue Inès avait été exclue de la conversation de par son origine, il semblerait. Je vais vous dire ce qui me gêne le plus dans son discours. Je suis une victime du harcèlement de rue. Et il y a des jours où je monte juste le son de mon MP3 pour ne pas les entendre, des jours où j'essaye de leur expliquer en quoi leur comportement me gêne, et des jours où, je l'avoue, je n'en peux juste plus de devoir changer de trottoir et d'éviter certaines rues. Mais j'ose imaginer que les harceleurs ne représentent qu'une infime partie de la population. De plus, j'ose imaginer, utopiste que je suis, que le problème n'est pas l'origine des harceleurs, mais les milieux dans lesquels ils vivent, et que le problème est bien plus que complexe. Car oui, très cher, Jean-Charles de Castelbajac lui aussi harcèle à sa manière, mais ça on en parle moins. Et encore, j'imagine que le dialogue et l'explication restent les meilleures des armes, et non cette chère tête blonde de Marine. Ah oui, il y a aussi ceux qui vous disent « Je suis pas raciste, mais c'est toujours les mêmes qui profitent de Pôle emploi et de la CAF ». En général, eux aussi, tirent leurs infos des meilleurs journaux comme 20 minutes ou TF1. Remettons un peu les choses au clair. Une femme seule, une mère isolée avec un enfant de plus de 3 ans, qui ne travaille pas donc, et admettons n'aurait jamais travaillé auparavant, touchera le RSA et la CAF pour le logement, ce qui fait un peu moins de 1000 euros. Une fois que le loyer a été payé, que l'école a été payée, que la cantine a été payée, amusez-vous aussi à soustraire les repas quotidiens, les affaires scolaires, etc. Vous arriverez à une somme bien modique. Dois-je vous rappeler, à vous qui tenez ce discours, que la pauvreté et la précarité ne sont jamais des choix, à vous qui préférez taper sur les victimes plutôt que de vous poser la question du pourquoi du comment. Je vous invite juste, si vous en êtes capable, à sortir de votre chez vous, et par chez vous j'entends de votre milieu, de vous enlever les œillères que vous portez, mais aussi de réviser votre vocabulaire. Je vous invite à remplir un dossier de CAF une fois dans votre vie, d'être confronté à la perte d'un emploi. Je vous invite aussi à partir de votre pays parce que vous y sentez menacé. Je vous invite à arrêter de voir la France comme une grande nation à laquelle on a osé toucher. Enfin, pour conclure, je vous invite à arrêter d'être omnibulé par des soi-disant différences et de plutôt regarder ce qui nous rapproche. Voilà.
Oh, t'aurais pu finir par un bisou Emma quand même.
Bisou Emma, sincèrement, votre bisou Emma. Non, voilà.
Non, mais c'était très bien. Ça fait du bien.
Ouais, oui. Ça décharge. Non, mais voilà, j'ai écrit ça parce que je ne le cache pas. Malheureusement, l'après Charlie a fait dire bien des conneries à certaines personnes qui, bon, en général, en avaient déjà pas mal dans la tête. Et du coup, j'ai l'impression que malheureusement, c'est devenu chose commune que de commencer ces phrases par ça et en fait de ne même plus sentir ce qui relève du racisme pur et d'essayer de l'excuser par des faits qui sont avérés ou non et par des soi-disant choses. Et c'est toujours, on a entendu que les gens, moi, les gens que j'entends dire ça, parce que pour le problème du Pôle emploi et de la CAF, ça devient quotidien d'entendre ça. Et en général, c'est des gens qui ne sont jamais allés au Pôle emploi, qui ne sont jamais allés à la CAF, mais c'est toujours l'ami d'un ami qui en général lui non plus n'a pas rempli un dossier de CAF. Ou alors c'est ça, c'est le dernier JT de TF1 où vous savez les 66 minutes ont fait une enquête exclusive sur les gens qui abusent du Pôle emploi et puis ben, en général c'est jamais Jean-Charles qui habite dans le 6e arrondissement de Lyon qui a abusé de la CAF, hein, on sait bien.
Bah, c'est ce qu'on appelle l'orientation journalistique. Ouais. Non mais en plus c'est drôle parce qu'il y a quelque chose là par rapport, tu parles de la CAF, c'est un super bon exemple, c'est que les premiers fraudeurs de la CAF c'est les employeurs. Donc je veux dire, il faudrait quand même se rappeler de ça, hein, c'est qu'aujourd'hui en France il y a entre, on estime entre 40 milliards et 70 milliards de fraudes liées aux employeurs, c'est-à-dire qu'ils ne payent pas ce qu'ils doivent parce qu'ils emploient des gens. Et que la fraude individuelle, c'est-à-dire la fraude d'être humain lambda, enfin de salarié lambda ou de demandeur, comme on dit, c'est un peu moins d'un milliard. Donc ce qui est bien, c'est 80 fois plus du côté d'employeur. Mais par contre, on va focaliser systématiquement sur les cas de fraude, machin et compagnie. Alors que très honnêtement, je me rappelle plus quel ministre avait demandé à la Cour des comptes de faire un énorme travail pour trouver tous les fraudeurs. Et ça avait coûté plus cher d'enquête que de ce qu'ils avaient récupéré au final. Ouais. Parce qu'en réalité, les gens ne fraudent pas. Mais pour une raison simple, c'est que déjà aujourd'hui, 50% des gens qui ont le droit au RSA ne vont même pas le demander vu la complexité du dossier à remplir. Et c'est ça déjà qu'il faudrait arriver à comprendre, c'est que même les gens qui auraient le droit, face à l'administration française, de toute façon, ils sont coincés. Donc voilà, c'est juste rien que ça devrait être un petit peu réveiller les gens et arrêter de dire des conneries, parce que franchement, enfin, ça fatigue, t'as raison.
Mais oui, mais au final, ça c'est tellement ça, c'est-à-dire que c'est tellement plus simple, en fait. C'est tellement plus rapide, tellement plus, je sais pas, ça doit nous faire du bien, en fait, de trouver une solution rapide à nos petits mots et nos petites analyses de société, parce que, ouais, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Mais en fait, on va taper sur le pauvre, en fait. Pas du tout, effectivement, sur ceux qui sont responsables de tout ça. Donc c'est une très belle lettre. Hein.
Ouais, merci. D'ailleurs, si tu en as le fichier, on a pu la publier sur le site.
Très bien.
Ouais, comme ça, on pourra la mettre pour que les gens puissent la relire.
Ben oui.
Et moi, je voulais juste te dire que c'est, en fait, pour moi, ça renvoie simplement à un truc, c'est que comme aujourd'hui, dans la société française, parce que les gens aiment bien dire qu'on est en France et qu'on est français,
voilà.
Dans la société française, on ne se bat plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de combat syndical quasiment, il n'y a plus rien, et ben, du coup, on regarde vers l'autre. C'est-à-dire qu'au lieu de se regarder soi-même et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire à ma petite échelle pour changer le monde et la société et faire en sorte d'aller mieux, et ben non, on regarde l'autre parce que c'est tellement plus facile et ça permet tellement de penser que nous on est parfait, pur et parfait tout simplement. Voilà, donc je trouve que c'est très symptomatique.
Ouais, puis il y a un espèce de climat qui règne un peu de dénonciation, moi qui me fait complètement peur parce que malheureusement ça rappelle quelque chose. Mais encore là, enfin moi le c'est ça, c'est vraiment se mettre des œillères et oublier de regarder le problème en face quand on entend qu'effectivement on donne du travail aux étrangers. Alors comme je l'expliquais dans la lettre, forcément le mot étranger désigne en général une partie bien précise de la population pour les gens qui l'emploient, attention. Et en général, il faut rappeler, pour les fameux étrangers qui viennent en France avec un titre de séjour et qui travaillent, en général, ont des emplois complètement précaires, j'ai pas d'autre mot, baisés par les patrons qui en abusent parce qu'ils ils savent très bien que ces gens sont dans une situation de précarité. Du coup, ils en abusent comme ils veulent. Et voilà, c'est refuser encore de voir qu'il y a une pénurie d'emplois, qu'il y a des emplois fictifs qui sont bien sauvegardés au ministère et tout ça pour des personnes bien classées et qu'on a une pénurie d'emplois, c'est tout. C'est ce qu'il faut regarder et que non, l'étranger ne vient pas te piquer ta place. C'est une connerie.
Juste comme ça, pour mémoire, hein, les gens s'offensent pour des gens qui frauderaient la CAF ou des choses comme ça. Donc je rappelle qu'au pire, ils pourraient frauder sur 484 euros un maximum pour un RSA. Par contre, quand on a un ministre qui s'appelait le Thévenoud et qui dit « j'ai pas payé mes impôts parce que j'ai une phobie administrative », il n'y a personne dans la rue pour y dénoncer.
C'est-à-dire que
c'est vrai, les impôts, c'est difficile à remplir.
C'est juste un exemple.
Mais c'est les puissants. Au final, les puissants n'ont jamais les attaquer frontales. Donc on se lâche. Il y a vraiment ça. Il y a une forme de défécation, tu vois,
sur
le pauvre, en fait, sur le plus faible. Et c'est malheureusement assez généralisé, quoi. C'est peut-être un peu ça qui peut être flippant, mais c'est peut-être ça aussi qui doit nous faire nous penser et nous faire dire qu'on ne va pas lâcher le truc, quoi.
Et tant qu'il y aura des imbéciles, la causerie sera là. On est là pour un moment. Hein.
Bon, on va s'écouter un petit brin de musique pour faire passer tout ça.
C'est cool.
I was born in
Et oui, vous êtes bien de retour dans la causerie sur Radio Canu. Et on vient de s'écouter Phyllis Dion avec Woman of a Ghetto. Une chanson justement où elle nous dit que comment peux-tu parler du ghetto si tu n'as pas vécu dedans ?
Yeah. C'était vachement bien.
Et Fab, toi, tu voulais justement nous causer de l'après Charlie.
Ouais, et j'ai appelé ça stratégie du choc à la française. Alors, je remercie Jean-Yves, c'est lui qui a trouvé le titre.
Oui, oui, oui. Je suis créateur de.
Oui, oui, oui.
Je crée des.
Créateur de titres à la cause.
Ouais.
Et oui, en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois de ça, même quelques années de ça, dans la causerie, on vous avait parlé de la stratégie du choc, enfin, du film issu du livre de Naomi Klein. Et que je vous invite toujours à aller lire, hein, le livre de Naomi Klein, La stratégie du choc, et où elle expliquait qu'en fait, qu'après un choc national, c'est-à-dire un attentat, une catastrophe naturelle ou quelque chose comme ça, les gouvernants en profitaient en général pour passer les lois les plus répressives ou les lois qu'on n'aurait pas acceptées en dehors de cette période de choc.
Qui crée une apathie.
Ouais, qui crée une sorte de sidération, c'est-à-dire qu'on est un peu tellement sidéré par ce qui se passe qu'on a du mal à voir, parce qu'en fait elle expliquait dans son livre de façon assez exceptionnelle, je trouve, que les hommes et les femmes politiques, c'est-à-dire ceux qui sont gouvernants ou les dirigeants d'entreprise, sont généralement des êtres humains qui ne sont pas des êtres humains comme les autres, mais qui sont bien des êtres humains formés pour être au pouvoir. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte de cynisme assez ancré en eux qui fait qu'ils n'ont pas d'empathie pour la population, et que du coup quand il arrive quelque chose à la population, pour eux c'est qu'une donnée lambda comme d'autres données lambda dans l'histoire, et que du coup ça leur permet d'avoir eux un temps d'avance sur la population qui elle est touchée. Enfin, je schématise un petit peu ce qu'elle expliquait. Et en fait en ce moment depuis les attentats de Charlie Hebdo et les meurtres dans le magasin Kacher, enfin l'attentat dans le magasin Kacher, donc c'est-à-dire les 17 morts d'il y a bientôt 15 jours, on voit que il y a une sorte d'emballement d'emballement de tous les côtés, hein. Donc alors il y a ceux qui ont essayé de récupérer ça un petit peu et qui sont plantés. Je pense notamment au Front National qui a essayé de jouer sa carte, mais qui s'est planté parce qu'il n'a pas su analyser, et tant mieux, le mouvement de foule qui s'est produit et surtout pourquoi les gens sont sortis dans la rue. Il pensait que ça y est, les gens voulaient bouter tous les Arabes hors de France, et en fait c'était pas ça, donc c'était raté, donc voilà. Et puis du coup tant mieux, parce que ça n'a pas marché pour l'instant. Mais par contre, ceux qui ont réussi à très très bien sauter dessus, c'est le gouvernement actuel qui a su excessivement bien surfer sur cette stratégie du choc. Alors comment ? C'est déjà en annonçant qu'on allait redéployer, en plus des militaires qui sont déjà présents, 10 000 militaires en plus sur le sol français. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura plus de militaires sur le sol français que de militaires en opération extérieure dans les différentes guerres que la France mène à droite et à gauche. Et ça, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire que je pense qu'en état normal, personne n'accepterait l'idée de se dire « Tiens, on est en train de militariser la France », parce que c'est un petit peu ce qu'on fait. On est en train de mettre un militaire à chaque coin de rue. Et ben là, c'est passé assez facilement. De la même façon, on a annoncé qu'il y allait avoir 3000 recrutements chez les policiers, et en particulier aux services de renseignement. Alors c'est bien, parce qu'on nous dit il va y avoir 3000 recrutements au service de renseignement, mais on ne va pas toucher aux libertés fondamentales. Tu vas donc les embaucher, pourquoi cela en fait ? Parce que je rappelle que les services de renseignement, c'est ceux qui sont tenus de vous espionner, ni plus ni moins. Donc voilà. Et on annonce dans le même temps qu'on va assouplir les règles justement de l'espionnage intérieur. C'est-à-dire on va assouplir les règles pour pouvoir faire des écoutes téléphoniques, vous mettre un mouchard sur la voiture, vérifier vos connexions et vos internet, fouiller dans vos PC. Enfin tout ça, ça va être assoupli. Donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Et c'est marrant parce que dans le même temps, il y avait eu une proposition de loi qui était passée un petit peu à la trappe, qui était une proposition de décret qui n'était pas sortie, qui était arrivée à Noël, le 24 décembre exactement, qui proposait de mieux surveiller Internet. Mmh. Et en fait, comme ça s'était su, le gouvernement avait fait un petit peu rétro-pédalage en disant « Ouais, non, mais bon, c'était qu'une idée, comme ça, j'ai tenté le coup ». Et en fait, le décret vient d'être publié. Et il a été publié sans que personne, finalement, ne s'en rende vraiment compte, ou personne ne percute. Et en fait, aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une surveillance directe d'Internet possible sans commission rogatoire d'un juge.
Oui.
C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire qu'en gros, si on décide qu'on doit vous écouter, on vous écoute, point barre. Alors il y a des gens que ça va rassurer, parce qu'il y a toujours des gens que ça rassure, mais soyons clairs que, très honnêtement, c'est une atteinte directe aux libertés fondamentales et aux libertés d'expression. Vous savez, le truc qu'on est parti défendre dans la rue pour Charlie. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a des lois qui vont aller contre ce qu'on Charlie Hebdo défend quand même. C'est quand même bien. Mais on y va en leur nom, donc c'est pas, pas ça. Donc c'est pas grave, hein, parce qu'on est tous Charlie. Et donc, ça, c'était la première étape. Et je pense que c'est pas terminé. Donc moi, je vous invite à surveiller ce qui va se faire autour des lois. Voilà, parce qu'on pense aussi à remettre des lois. J'en parle un petit peu plus loin. Je vous expliquerai pourquoi elles sont dangereuses. Ensuite, il y a la casse du code du travail. Parce que il y a un nouveau ministre de l'économie qui s'appelle M. Macron, qui est milliardaire, hein, je vous le rappelle. Est-ce qu'il paraît que c'est bien pour un ministre...
milliardaire ou millionnaire ?
Des milliardaires, je crois.
Ah, des milliardaires.
Des millionnaires à une époque, je crois qu'il est passé milliardaire.
Félicitations, bravo,
monsieur Macron.
Si j'ai bien tout compris, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que donc, ce monsieur, a priori, plus t'as d'argent, plus tu sais gérer l'argent des autres, et ben, en fait, il a décidé qu'il fallait casser le code du travail et le droit du travail en éliminant le code du travail et en faisant relever le contrat de travail du code civil. C'est-à-dire qu'en fait, un contrat de travail deviendrait comme un contrat avec votre opérateur téléphonique. C'est pas tout à fait la même chose quand même, hein, faudrait pas déconner, mais lui il dit ouais, allez, on va faire ça. Puis comme ça suffit pas, il se dit bon bah, comme du coup on casse le code du travail, les prud'hommes ça sert plus à rien, donc on va leur exploser la gueule. Hein.
Bah oui, attends, ça va.
Et puis comme en fait dans les entreprises, les salariés se plaignent beaucoup, on va enlever les CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, je vous rappelle, qui ont été gagnés dans les années 80 pour le CT. Voilà, et donc on va les enlever parce que quand même qu'est-ce qu'ils se plaignent ces salariés. Puis aujourd'hui en France, il y a beaucoup de tertiaires, donc dans le tertiaire, on se blesse pas, et puis il y a pas de trou, vous ratez quoi. Donc en gros, voilà. Donc en gros, on a quand même une loi qui, bah en gros, nous fait revenir en 1936. Avant, alors, sauf qu'ils ne nous enlèvent pas les congés payés.
Ah, c'est gentil.
Donc on reste vraiment en 1936 parce qu'on a encore les congés payés. Ça ne devrait pas durer. Et dans la même loi, M. Macron, bah, il instaure deux nouvelles choses qui sont assez marrantes, marrantes, qui sont un peu cyniques. Hein. C'est le travail du dimanche, hein, en disant on pourra travailler 12 dimanches au lieu de 5. Allons-y gaiement.
Formidable.
Et surtout, et ce que les gens ne relèvent pas, c'est qu'il instaure quelque chose qui n'existait pas, le travail en soirée. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, dans le code du travail, il n'existe que deux régimes de travail. C'est le travail en journée et le travail de nuit. Il n'y a pas de code dérogatoire à ces deux fonctions-là. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, vous êtes en travail de nuit. Et bien, avec la loi Macron, on va instaurer le travail en soirée. Alors, la soirée, d'après M. Macron, c'est jusqu'à 23h. Ça veut dire qu'on va enlever tout simplement les heures de nuit aux gens qui travaillent entre 20h et 23h parce qu'ils seront en régime soirée. Régime nuit. C'est merveilleux. Donc voilà, et tout ça passe parce que, bah, du coup, comme on est un peu en état de sidération, et bah, personne ne s'empare de cette loi Macron pour dire attention, il y a un problème. Alors, je vais faire un appel. Oyez, oyez, braves gens, demain à Paris, il y a une énorme manifestation contre la loi Macron. Si tu n'es pas loin et si tu es dans le coin, vas-y et fais du bruit dans la rue parce qu'il va falloir faire quelque chose. Et il y a aussi une deuxième chose qui a été décidée dans cette période-là, c'est la non-revalorisation des minima sociaux. Ça, personne n'en a parlé. C'est-à-dire qu'on n'a pas revalorisé le SMIC, on n'a pas revalorisé le RSA au-delà de ce qui est légalement automatique. Oui. Et surtout, quelque chose qu'on oublie de dire, c'est qu'on n'a surtout pas revalorisé les accidents du travail. C'est-à-dire qu'on vient gentiment de faire un cadeau de quasiment 80 millions au patronat en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit, on ne vous demande pas de cotiser plus alors qu'il y a eu plus d'accidents du travail l'année dernière. On a bloqué l'indice. Ce qui revient à donner un cadeau au patron alors qu'il blesse leurs salariés. Je vous rappelle, quand on se blesse au travail, c'est votre patron qui est responsable. Enfin, jusqu'à ce que la loi Macron passe. Mais pour l'instant, c'est encore lui. Donc voilà, donc, vous voyez, c'est des petits cadeaux comme ça qui sont passés un petit peu à la trappe, sans que personne ne voit rien. Et puis, voilà. Et puis, il y a une troisième étape qui, moi, me fait encore pas plus peur, parce que le reste est dégueulasse, mais qui, moi, m'inquiète, c'est le retour au travail, famille et au patriotisme à trois balles. Et là, ça devient vraiment gerbant et dangereux. Alors, on a d'abord un truc qui est revenu sur la table, c'est la loi d'indignité nationale. Alors ça, c'est un truc inventé en 1945 par le général de Gaulle, qui voulait se venger de quelques personnes avec qui il avait été vachement pote avant la guerre, mais que finalement, ils n'étaient pas vachement potes, parce que c'était que ça. Et ça a été mis en place uniquement pour pouvoir purger les gens qui dérangeaient, qui auraient soi-disant, ou qui avaient effectivement collaborer avec les nazis. Alors on va être très clair, cette loi c'est quoi ? C'est que si vous êtes touché d'indignité nationale, on vous retire tous vos droits civiques, vous n'avez plus le droit de rien faire. En fait, vous vivez sur le sol français, mais
vous n'êtes rien.
Voilà, vous êtes un indigne de la nation. Alors, non seulement ça a un côté purement dégueulasse parce que c'est un côté vraiment pourri et très judéo-chrétien à trois balles du bannissement du paradis. Vous voyez, c'est un petit peu où t'as mangé la pomme, tu vas le souffrir sur terre. Enfin, c'est un peu ridicule. Et en plus, très honnêtement, ça interroge parce que pourquoi est-ce qu'on voudrait à faire cette loi-là? Parce qu'en fait, on est en train de dire la France est tellement parfaite qu'elle ne veut pas engendrer de monstres. Et que donc, en fait, ces gens qui sont des monstres et qui étaient français, je vous rappelle que les personnes qui ont commis les attentats contre Charlie Hebdo et contre le magasin Kacher étaient des Français. Et ils étaient Français, comme vous et moi, enfin pour moi en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ils étaient Français. Et qu'en fait, on veut essayer d'effacer cette espèce de truc en disant oulala, non mais attendez, c'était des Français, mais pas vraiment des Français, quoi. Ouais. Et bah si, c'était des Français. Donc, il va bien falloir admettre que même dans notre très très beau pays, très grand, avec sa belle et grande histoire, et bah oui, chérie, on peut créer des monstres. Et d'ailleurs, il suffit de regarder la période de 45 au passage pour voir qu'on en avait créé un paquet.
Donc, voilà. Et un sang à souhait.
Voilà, non mais c'était juste quand même. Voilà. Et puis il y a aussi l'idée de retirer la nationalité française. Alors ça, c'est assez étrange. Parce que ça ne peut se faire que vers les binationaux. Je vous rappelle que l'ONU interdit de créer des apatrides et qu'on a tous signé la charte, enfin tous les pays ont signé une charte qui interdit de créer des apatrides, des personnes qui n'ont pas de patrie. Donc bah, la France ne peut pas créer d'apatrides, donc pour retirer la nationalité française, il faut que la personne ait une autre nationalité. Alors ça c'est purement dégueulasse et c'est purement idiot, parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le terroriste qui a une binationalité, il est plus français. Par contre, le terroriste qui lui est français et qui a pas de binationalité, il reste français. Alors je vois pas trop déjà l'intérêt. Voilà. Et puis surtout, c'est encore une fois la même histoire, c'est on veut cacher et surtout laisser entendre que c'est parce que quand même ils sont pas vraiment vraiment français qu'ils ont fait ça. Alors je trouve ça juste fou parce que non seulement ça va dans le sens de tous les racismes que tu dénonçais,
clairement,
Emma, parce que c'est un peu une phrase à la oui mais. Alors oui, ils étaient français, mais quand même ils n'étaient pas vraiment français. Hein. Et puis surtout c'est un truc qui est quand même assez affolant parce que c'est une espèce de resserrement patriotique à travers des valeurs mais pourries qui sont les valeurs de qui est français, celui qui ressemble à un français. Parce que c'est ça l'idée qui est derrière. Et là ça devient mais flippant quoi. Et on en est là, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui exactement ça qui est mis en place. Pardon, donc moi je voulais quand même parler de tout ça parce que c'est quand même pas anodin, c'est pas rien. Et puis ça nous amène à une interrogation, c'est que Naomi Klein, elle dit la stratégie du choc, il n'y a que deux façons en fait de la contrer. La première, c'est de se réveiller individuellement, et la deuxième, c'est une fois qu'on est réveillé individuellement, c'est de réveiller collectivement. Donc ça veut dire qu'il va falloir aujourd'hui qu'on commence à se réveiller collectivement, parce que oui, il va falloir descendre dans la rue, et pas que pour rendre hommage aux copains de Charlie et aux copains qui étaient morts dans le magasin Kacher. Non, il va falloir redescendre dans la rue aussi pour demander des droits, pour empêcher qu'on nous en enlève, pour éviter aussi un tout petit peu que de mettre des drapeaux bleu, blanc, rouge de partout, puis plutôt rappeler que la France est une terre de métissage et qu'elle a toujours été une terre de métissage dans l'histoire, et que c'est parce que c'est une terre de métissage que l'on peut arriver à vivre aussi bien dans un pays qui a créé la laïcité, par exemple. C'est notre histoire qui a créé la laïcité, c'est pas pour rien. Et que, je voulais juste te dire, il y a quand même deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on s'est rappelé que le fraternité, dans liberté, égalité, fraternité, eh ben, c'est un petit gars qui venait d'Haïti, qui l'avait mis au, parce que ça a été rappelé, et que, bah, il était noir, et qu'il était d'Haïti, et que c'est lui qui a mis le mot fraternité dans notre belle, le beau slogan, et que c'est pas rien, et que du coup, c'est bien, parce que des gens se disent, ah, tiens, donc il y avait déjà eu des noirs à l'Assemblée nationale, ce serait bien que ça revienne. Et la deuxième chose, c'est Marine Le Pen s'étant bien plantée en essayant de rattraper tout ça, elle vient de perdre 20 points dans les sondages d'opinion. Et ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire qu'il y a un réveil quand même un petit peu autour d'autres valeurs que simplement le rejet des autres. Espérons que ça dure, quoi.
Alors je vais peut-être faire court vite fait, mais soit Marine Le Pen a perdu parce que etc, ou alors c'est les gens se cristallisent autour d'un projet qui aujourd'hui est porté quand même par des gens qui se disent de gauche, qui au final revient quand même à un genre de famille, travail, patrie.
Je suis d'accord avec toi, sauf que je pense qu'il est plus facile de rattraper, de discuter avec des gens qui ne sont pas fanatisés par l'extrême droite,
effectivement,
que de discuter avec des gens fanatisés par l'extrême droite.
Voilà, effectivement.
J'ai un avis très personnel, mais je pense que pour nous c'est à nous de faire le boulot maintenant.
Oui, c'est plus ça.
Je dis pas que c'était un grand réjouissement, bravo, hurra. C'était juste qu'il y a un petit peu d'espoir à se dire qu'on peut quand même arriver à avoir des changements dans le bon sens. Voilà. Ouais.
Oui, puis moi j'en profite juste pour faire un petit bisou à ce cher ami de Marine Le Pen qui a publié une vidéo combien magnifique au niveau du Parlement et qui nous fait un petit salut et qui nous fait un joli parallèle entre ce qui vient de se passer pour les attentats de Charlie et les horreurs nazies et tout ça. Mmh. Mais bon, Marine a dit qu'elle se mêlait pas à tout ça. Hein. Mais bon, quand même, on lui fait un bisou à ce cher ami.
C'est là qu'on voit la connerie de ces gens-là, mais vraiment, mais c'est vraiment de la bêtise crasse, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Mais ils sont dangereux, quand même.
C'est ça. C'est qu'ils restent dangereux malgré leur connerie. Ouais.
Voilà, moi j'ai fini, pardon.
Yes, on passe à la musique, s'il vous plaît.
Get back.
oui, c'est Radio Canu au 102.2, c'est la causerie, on est dimanche, on est pressé, donc je vous dis juste que c'était Kazaki avec The Sun, et je vous invite à aller voir tous leurs clips parce qu'ils sont juste magnifiques et vous verrez qu'on peut danser magnifiquement avec des talons, même quand on est des garçons.
Oui, quand on est né avec un pénis, voilà, ça revient au début de l'émission. Allez, on recommence.
C'est pour la rime talons garçons.
Ok. Ouais,
j'essaie de faire dans le. Dans
bon,
la, dans
allez, il nous reste 2 minutes avant que l'émission suivante prenne notre place, donc c'est l'heure des brèves et des petits rendez-vous quand même qu'il y a cette semaine, et il y en a quand même quelques-uns, principalement bah, c'est samedi en fait, tout se passera samedi, en tout cas tous ceux qu'on va vous donner ce soir. On commence peut-être par...
Bah, par Canu.
Bah alors, oui.
Il y a un repas partagé, enfin pardon, pas partagé du tout, il y a un repas à l'atelier des Canulars le 31 au soir pour soutenir Radio Canu. C'est du chili sans carne, donc du chili sans viande. Et voilà, donc vous pouvez aller manger et puis donner des petites oboles pour soutenir Radio Canu.
Yes, c'est de 20h à 1h, je crois que c'est rue Montesquieu.
Ouais, c'est ça.
Dans le 7e.
7e.
Ok. Et ben bah alors. Alors, un petit peu avant tout ça, de 15h30 à 16h30, il y a une discussion à la librairie La Griffe, qui se situe toujours dans la rue Sébastien Griffe, dans le 7e aussi. Et ça se passera, donc, c'est une discussion autour du livre À nos amis.
Qui était écrit par ceux qui ont écrit
l'insurrection
qui vient.
L'insurrection qui vient.
C'est le comité invisible.
C'est le comité invisible.
Voilà. Soyez là.
Yes. Et ensuite, eh ben, il y a une soirée de soutien. Alors, la semaine dernière, c'était nous. Enfin, c'était Radio Canu. Eh ben, samedi prochain, il y a une soirée de soutien au projet de lycée autogéré à Lyon. C'est au bar, de l'autre côté du pont. Pour ceux qui étaient là pour Canu, c'est le même endroit. C'est de 17h à 1h. Alors, c'est vachement bien foutu parce que à 17h, il y a la présentation du projet. Ouais. Et vraiment, je vous pousse à y aller parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ces projets de lycée autogérés et autonomes. Et à partir de 19h, c'est un apport dînatoire avec concert de soutien. Donc, on pourra même bouger un petit peu. Voilà, voilà. Et ben, quoi d'autre ? C'est tout, on vous rappelle vite fait peut-être les mails,
la causerie canu@gmail.com, le blog blogs.radiocanu.org/la causerie, et surtout n'oubliez pas que Radio Canu a besoin de sous, alors allez sur radiocanu.org pour voir comment nous faire un don, parce que vraiment je vous assure qu'on n'est pas loin de pouvoir acheter un local et qu'on est vachement content, mais qu'on a encore besoin d'un petit coup de main, même d'un gros d'ailleurs.
Et ben on vous souhaite une bonne semaine. L'émission qui suit, c'est toujours Les Yeux Grands Ouverts.
Oui.
Et ben, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Oui.
On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour la semaine qui vient.
Et banzai.
Et on se quitte avec
Shura et Touch.
Yeah, Touch. Bonne semaine à toutes et à tous.
Bisous.
Ciao. Salut. History.